Jean de la Brette. Illusion masculine. Chapitre 1. Tout le monde raconte son histoire, se croit intéressant, parle de soi, est endiablé pour publier des lettres, disait devant moi un vieux colonel. C'est dans le salon d'une femme aimable, chez laquelle je passais mes jours de sortie, que cet homme bourru exprimait ainsi son opinion. Elle me parut dénuée de fondement, ou du moins de sens judicieux, car si personne ne parlait de soi, comment connaîtrait-on l'humanité intime? Est-il sur la terre chose plus intéressante que de pénétrer dans le cœur ou l'esprit des autres? Dans une âme, c'est un voyage à fondrière. Je n'aime pas les fondrières. Mais, colonel, trouvez-vous beaucoup de fondrières en vous? J'en trouverais des masses si je me donnais la peine de voyager dans mon individu. Vos idées sont curieuses, dis-je en riant. En écoutant ce vieux soldat que la psychologie effraie, l'esprit de contradiction me suggéra la pensée que je n'avais encore jamais eue de parler de moi à moi-même. L'idée a dormi longtemps. Qu'en aurais-je fait avant mon entrée définitive dans la vie? Mais ce matin, par une singulière marche de mon imagination, elle prit une extrême consistance en regardant un trèfle incarnat. La découverte de ce trèfle était un événement, car il n'y en a pas à 5 lieues à la ronde, et le vent, de fort loin sans doute, avait apporté une graine dans mes champs. En contemplant la feuille découpée, je me demandais si l'avenir se composerait pour moi d'incidents aussi infimes, et je résolus alors de noter les faits, les impressions qui auraient une répercussion sur mes sentiments, avec la conviction que j'en comprendrais mieux l'importance ou la puérilité. D'ailleurs, aucun soldat ne s'en mêlera pour me critiquer. Ensuite, je partage l'avis de M. de Barante qui écrivait « Voir ce qui se passe en soi-même, en convenir avec soi et avec ceux qui peuvent le comprendre, voilà le secret de la distinction. » Je ne sais pas encore dans quelle région habitent ceux qui pourront me comprendre, mais en les attendant, je travaillerai ma propre terre pour la préparer. En traversant hier la prairie, je marchais vraiment sur un tapis de fleurs. La menthe sauvage, violemment froissée, répandait son vif parfum, et les grandes marguerites dont mon passage était jonché s'affaissaient à regret. Elles me reprochaient de détruire leur vie éphémère, et, en vérité, ce reproche me pénétra de remords. Je me sentais assez heureuse de vivre pour que la pensée de toucher à l'existence d'une simple fleur me parût un attentat. Aussi, me détournant brusquement, je me rapprochai du talus qui borde la prairie. Le talus est large et, sur le sommet, entre deux rangées de chênes taillis dont les branches forment berceau, il y a un passage étroit. Je l'ai suivi, comme autrefois, lorsque je venais chercher ces pommes de chêne teintées de rouge, jolies et intrigantes, jusqu'au moment où, les ouvrant, on ne découvre que des débris d'insectes. Je descendis près de la grande mare, à l'instant précis où le fermier se demandait quel était l'animal assez effronté pour avoir sillonné sa prairie. En me reconnaissant, sa bonne figure s'épanouit. « Comment, mademoiselle, c'est vous ?» « Et d'où sortez-vous? Où est ma femme ?»« Elle doit être arrivée. Moi, j'ai laissé la voiture au coin de la butière pour marcher un peu à travers les bois. »« Et c'est vous qui avez si bien arrangé mon herbe ?»« Oui, Pelchat, c'est moi. N'en accusez personne. D'ailleurs, elle se redressera. »« Ah, mademoiselle, si c'était un autre que vous, il recevrait une roulée. Je ne vous dis que ça. » Et sa bonne humeur éclata à l'idée que sa grosse main calleuse pourrait corriger l'enfant qui, toute petite, courait au milieu des poussins de la ferme pour les saisir et les étrangler dans ses mouvements maladroits. « On ne vous attendait pas aujourd'hui, mademoiselle. J'ai été prête un jour plus tôt, aussi ai-je décidé votre femme à partir immédiatement. » 6 années de mon existence viennent de s'écouler dans une pension dont la directrice, femme d'intelligence et de cœur, a été une amie de ma mère. Je l'ai quittée avec des regrets qui se sont adoucis en revoyant les champs, les fleurs, la maison, les jardins. Ils étaient presque oubliés lorsque j'embrassai ma vieille gouvernante qu'une indisposition retenait à Aumont. « Vous avez encore grandi, » me dit-elle avec un sourire satisfait. Je n'ai pas grandi d'un millimètre, mais chaque année, me retrouvant plus haute et plus à son goût, Mademoiselle Perrin, mademoiselle, comme nous l'appelions et l'appelons encore, a pris l'habitude de croire que les lois de la croissance se sont modifiées pour sa chère enfant. Elle a été moitié gouvernante, moitié institutrice de ma petite jeunesse, et mon père mourant lui a constitué une modeste rente en la priant d'être la gardienne de ma maison, l'amie fidèle de sa fille. Depuis 6 ans, j'ai passé auprès d'elle toutes mes vacances. Vacances incomplètes par la faute de mon tuteur, qui me les accordait aussi courtes pour la raison suivante, posée comme un théorème. Étant donné une jeune fille qui grandit et fait son éducation, étant donné le grand air nécessaire au physique, étant donné qu'un tuteur, dans certaines circonstances, ne peut recevoir sa pupille, une gouvernante sûre et dévouée l'aura sous sa garde durant 30 jours, ni plus ni moins. Je ne pardonne pas à mon tuteur d'avoir ainsi imposé sa volonté et diminué le bon temps où je m'épanouissais près d'un cœur aimant. J'imagine que mon tuteur ressemble lui-même à un théorème remarquable, paraît-il, avec des succès étourdissants comme ingénieur. Dans l'œuf, c'est-à-dire à l'école polytechnique, il a découvert une chose extraordinaire qui lui a valu un prix à l'Académie des sciences. Je l'ai vu une fois en 6 ans. Ce jour mémorable, il m'administra une orange, un sac de bonbons et 3 conseils sur les devoirs d'une pensionnaire. Sa mère, ma tante à la mode de Bretagne, est venue me voir, j'ai voyagé sous son égide, aussi ai-je sur elle une opinion raisonnée. Mais je n'ai gardé qu'un souvenir bien vague de mon cousin. Intimidé dans ce froid parloir, mes yeux n'ont pas dépassé une cravate énergiquement nouée. Fort heureusement, ma timidité s'est envolée avec les années et je mettrai en œuvre toute l'acuité de ma vision pour observer ce tuteur avec lequel je dois vivre jusqu'au jour prochain de mon mariage. « Croyez-vous, ai-je demandé à mademoiselle, que ce soit ma tante qui vienne me chercher ?»« Ah, mon Dieu, j'oubliais, il y a une lettre pour vous, ma chérie. » La lettre n'est pas de mon cousin, mais de sa mère. « Ma tante m'annonce qu'ils arrivent après-demain et passeront 2 jours ici afin d'examiner si mon domaine a besoin d'amélioration que découvriront les yeux sagaces d'un ingénieur. » En attendant, je respire l'air bienfaisant de mon chez-moi et de la liberté. Non pas que je déplore les arrangements qui viennent d'être pris, la maison de ma tante est agréable, puis mes goûts sont sérieux et mon esprit est satisfait avec ses pensées, ses livres et ses pinceaux. D'ailleurs, à cheval sur son devoir, galopant et perdument avec lui, le théorème veut que je connaisse le monde afin d'achever son grand œuvre en me mariant prestement. Je n'aurai donc aucune raison de m'ennuyer. Que sait-il, ce cousin, de mes goûts, de mes tendances, de mes idées? Il ignore si je suis entraîné vers les profondeurs mystiques du cloître ou vers un rêve plus humain. Ce rêve est-il simple ou compliqué, modeste ou ambitieux? Pourquoi pas ambitieux? Nous verrons bien. Longtemps, ce soir, mademoiselle et moi avons devisé sur mon avenir. Mais, au fond de moi-même, sur un lit brodé d'espérances ou d'illusions, sommeille des sentiments que je me suis gardé d'éveiller. Leurs confidences ne sont que pour Jacqueline du Haumont.